Elle chanta avec moi de sa voix claire comme un tintement de cloche. Les autres se groupèrent autour de nous, attentifs, tout en grappillant du raisin. Il était peu après 4 heures. Alors que le brouillard ne permettait guère de distinguer la hauteur en face de nous, l'ordre circula dans les rangs. « Attaque dans 20 minutes. »« On doit prendre ce sommet ?» questionna le lieutenant. « Ce sont les ordres, » répondis-je, « mais les Anglais sont déjà en place là-haut et bien armés. » « Mais c'est du suicide, » répliqua-t-il. Je ne pus que lui dire que nous devions essayer d'y arriver. « Chef, vous en avez vu mourir des soldats ?»« Beaucoup trop, » lui dis-je, amer. Il s'écria, « Mais on ne meurt pas à la première attaque, n'est-ce pas ?» Sa voix trahissait la peur. Ce n'était pas de bon augure. C'était à lui de nous guider, tout novice qu'il était, et voilà qu'il paniquait. Je le vis trembler de tout son corps. Par saccade, il dit, « Non, non, je ne peux pas mourir, elle m'attend. » Il sortit de son carnet de soldat la photo d'une jeune fille. « C'est elle. Je lui ai promis qu'elle serait un jour ma femme, dans un presbytère. » Comme son père, il voulait être pasteur. Dieu ne pouvait tout de même pas vouloir qu'il n'atteigne pas son but. « Je ne peux pas mourir maintenant, non, c'est beaucoup trop tôt. » Et c'est lui qui devait nous mener à l'attaque. Je lui dis qu'en tant que théologien, il avait dû entendre parler de la confiance en Dieu. C'était le moment de la mettre en pratique. « Écoutez, suivez-moi et ne bougez que si je bouge aussi. Vous ne sautez pas quand je ne saute pas. Nous devons toujours être à couvert avant que l'ennemi ait le temps de viser. » Il acquiesça d'un simple signe de tête. Nous récitâmes ensemble notre Père pendant les dernières minutes. Devant nous s'étendait un terrain dégagé, légèrement en pente, sur environ 300 mètres. À 5h40, les 4 pièces d'artillerie qui nous restaient tirèrent quelques coups. Nous nous élançâmes. Aucun coup de feu ne fut tiré du haut de la montagne. L'ennemi avait-il déserté une position pourtant stratégique? À peine avions-nous atteint la moitié du terrain en déclivité que nous fûmes cernés par le feu des obus. Nous avancions comme des grenouilles, un bond de 2 mètres, puis nous nous plaquions au sol. Curieusement, tout alla bien. De nulle part, je n'entendais appeler à l'aide. Mais 50 mètres plus loin, nous arrivâmes dans le feu des mitrailleuses. À ce stade, on ne devait plus faire que de tout petits bonds. Le lieutenant était juste derrière moi et faisait comme je lui avais conseillé. Au moment où je bondissais, il bondissait aussi, et nous nous jetions à nouveau à terre, le nez dans la poussière. Il n'y avait plus que 10 mètres avant un lit de rivière asséché dont les broussailles offraient une protection suffisante. Encore 3, 4 bonds, et nous serions provisoirement en sécurité. Je le vis près de moi, sur le point de se relever, et criait « Ne sautez pas, attendez !» Trop tard, il avait pensé arriver au lit de la rivière en une seule fois, et fit 4, 5 pas, mais c'était plus qu'il n'en fallait à l'ennemi pour l'atteindre. Il tomba en avant, plusieurs éclats d'obus dans la poitrine. Je me précipitais. De plusieurs plaies, le sang s'écoulait. Il n'y avait plus rien à faire. Il me regarda et dit avec ses dernières forces, « Ma pauvre petite fiancée !» Ce fut tout. La guerre, quelle folie! Tous ces jeunes qui meurent avant même d'avoir commencé à vivre. La côte 444 fut pourtant arrachée, mais au prix de pertes importantes. Une heure plus tard, le commandant arrivait et me décernait une citation pour bravoure devant l'ennemi, selon ses propres termes. Cela faisait déjà 4 fois que j'entendais ces paroles, mais elles ne me procuraient ni fierté ni joie. J'avais devant moi le visage du lieutenant. Qu'avais-je donc fait de spécial? Ce que des centaines de soldats faisaient à mes côtés. Étais-je plus courageux qu'eux? La nuit suivante, ordre nous fut donné d'abandonner la colline. Les pièces d'artillerie navale avaient fait feu sur elles pendant des heures, et nous n'avions plus ni canons ni munitions à leur opposer. On nous plaça un peu au nord de Salerne, vers la côte maritime, avec mission de prendre à revers les troupes qui venaient de débarquer. Cachés dans un bois de pins, nous attendions. Devant nous s'étendaient de belles prairies sur lesquelles paissaient des chevaux de race d'un haras royal. C'est alors qu'une grêle d'obus de l'artillerie navale s'abattit sans interruption au milieu des bêtes. Les cris des chevaux hennissant à la mort étaient effrayants. Mortellement atteints, ils se cabraient sur le sol. C'en était trop pour nos soldats qui ne pouvaient supporter cette horreur. Malgré la mitraille, quelques-uns se risquaient à donner le coup de grâce aux pauvres créatures. Je ne pus m'empêcher de penser au chapitre 8 de la lettre aux Romains. La création gémit dans les douleurs de l'enfantement, attendant la délivrance. Après les pertes des jours précédents, il ne restait plus qu'un tiers de la compagnie. Un nouveau changement de position nous rapprocha de la ligne de l'adversaire qui, à moins de 2 kilomètres de nous, avait dressé un barrage de chars et de canons. Au bord du chemin, nous trouvâmes un char ennemi mitraillé de part en part et en partie calciné. Le chauffeur, un noir, gisait encore à l'intérieur. Je le tirai à l'extérieur et fus saisi. Il tenait dans la main une Bible anglaise et je trouvai une petite croix dans sa poche. Je creusai un trou pour l'enterrer. Une fois de plus, nous avions tué un frère avec qui nous partagions la même foi. La folie de la guerre nous donnait de rudes coups au cœur. Au bout de quelques mètres, notre attaque piétinait déjà. Puis le barrage mobile de l'adversaire nous fit reculer précipitamment et nous perdîmes la plaine de Salerne. Il fallut retourner dans la montagne, au nord-est. À Murano Luciano, j'eus la chance de faire la connaissance d'un évêque qui avait la responsabilité pastorale des troupes italiennes. Il confirma en latin l'autorisation de l'évêque de Sicile, de sorte que je n'eus plus aucune peine nulle part à recevoir les saintes hosties. Il était visiblement plus connu que l'évêque d'une petite ville sicilienne. Dans les combats en montagne ou dans des petites localités, à maintes reprises des civils étaient atteints, parfois grièvement. Comme il était éprouvant de devoir soigner des enfants, des femmes et des jeunes filles à qui la guerre avait infligé d'aussi terribles blessures. La nuit, les villes et les villages en flammes embrasaient l'obscurité, tel un feu d'enfer. La ville de Campobasso, notamment, ne fut qu'un gigantesque brasier durant 2 nuits entières. Lentement, je sentais s'accumuler le poids et la tension des opérations ininterrompues depuis la Sicile, au cours desquelles, à plusieurs reprises, j'étais allé chercher les blessés derrière les lignes ennemies. Si mon fidèle chauffeur ne m'avait pas tiré plus d'une fois de situations désespérées, je ne sais si je serais encore en vie. Mais voir toute la souffrance des soldats grièvement blessés et celle plus cruelle encore des innombrables civils, c'était moralement un fardeau encore plus lourd à porter que les combats eux-mêmes. Beaucoup de blessures ne pouvaient être soignées. Il ne restait que l'amputation. Un grand nombre de blessés succombaient. Je me demandais souvent combien de temps j'allais pouvoir tenir. Le 12 novembre, j'appris qu'une attaque aérienne avait touché la maison de mes parents à Cologne. J'obtins la permission promise depuis longtemps. Quel soulagement de pouvoir échapper quelque temps à l'enfer de la guerre. Chargé de bidons pleins d'huile d'olive, je regagnai le pays en passant par le col du Brenner. Je constatai que les dégâts de notre maison étaient assez minimes. Maman, ainsi que mes jeunes frères et sœurs, avaient été depuis longtemps évacués au nord, dans le Hümling, où tout était calme. Je n'avais donc plus rien à faire à Cologne. Je partis finir mes congés à Rothenburg, près de Tübingen, où résidait le provincial de l'ordre depuis la dispersion de notre monastère. Enfin, avant de retourner au front, je fis halte à Rome pendant 2 jours, qui entretenait des liens particuliers avec la congrégation des religieux, obtint pour moi une dispense me permettant de prononcer mes vœux définitifs sans atteindre la fin de mon service militaire. Après tout ce que j'avais vécu, j'étais fermement décidé à suivre l'appel à la vie religieuse et, si Dieu voulait, au sacerdoce. Mais les vœux scellaient un engagement définitif, irrévocable. Pendant 1 semaine, je me préparais à cette démarche dans un monastère, un lieu de pèlerinage, si dans une paisible vallée, entouré de la sollicitude de mes frères, bien nourris et loin des malheurs de la guerre. Aux yeux de certains d'entre eux, il est vrai, les choses allaient un peu trop vite en ce qui me concernait. Mais comme mes supérieurs étaient d'accord, que m'importait? Le 7 décembre 1943, dans la magnifique église du monastère, je prononçai les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Il n'y avait presque personne dans l'immense église, mais sur le premier banc, une sœur était agenouillée, la sœur sacristine de Fulda. Ses supérieurs, qui savaient qu'elle priait depuis plus de 19 ans, lui avaient accordé la permission tout à fait exceptionnelle de faire en pleine guerre ce long voyage vers le sud pour assister aux vœux de son petit garçon. Elle rayonnait de joie et d'action de grâce. Cette journée était la récompense de ses prières. Le lendemain, 8 décembre 1943, je reçus de Monseigneur Philippe